Ville fascinante, extraordinaire, thrilling cities qui se nomment Macao, Los Angeles, Las Vegas, écrivait Ian Fleming. Après Macao, ville-monde et ses casinos, nous voyageons vers la capitale mondiale du jeu, Las Vegas. Après Los Angeles, ville-monde, la route 66, direction Las Vegas, boulevard, le strip, on the road again. Et voici Las Vegas, tout ruisselant de lumière, comme le racontait Simone de Beauvoir dans l'Amérique au jour le jour. Aujourd'hui, Las Vegas, ville-monde, première escale. Bon voyage sur France Culture sans frontières.
Ville, monde.
There was only one road back to LA.
Viva Las Vegas.
We've gone in search of the American dream.
Wait to cross Las Vegas Boulevard.
There was no point in looking back. Fuck no, not today, thank you kindly.
Michel Pomerade, Jean-Philippe Navarre.
A man on the move.
Le dicton le plus fameux de la ville, c'est totally ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Comprenne qui voudra. Vegas,
c'est inexplicable. C'est gigantesque. Vraiment, ça c'est quelque chose qui revient. Vegas, c'est gigantesque. Ils font des trucs qu'on pense quasiment impossibles, quoi. Ils sont inhumains, pratiquement. La logistique, la mécanique est inhumaine, en fait, pratiquement. C'est titanesque. C'est énorme.
C'est incroyable. Vegas, c'est la ville des...
Waouh. Mais non. Des salopes.
C'est mieux que dans un film. Celui-là, par exemple. J'ai pensé à toi si longtemps, je me demandais si je te reverrais un jour. Lui, il lui répond, t'as toujours eu ce que tu voulais, alors je sais pas ce que t'es venu chercher à Vegas, mais prends-le et va-t'en. Une bague de mariage, peut-être ? Allez, au diable les clichés.
Ça, c'est le, comment dire, le cliché, mais vous avez constamment des mariages avec des Elvis que vous voyez passer, les vieilles américaines, vous avez des limousines à n'en plus pouvoir. Enfin, là-bas, tous les clichés de l'Amérique sont réunis tous les deux mètres, quoi, en fait.
Et tous les deux mètres, William Payen, président de la Ligue française de poker.
Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui, parce que j'essaie toujours d'être raisonnable et que j'avais une petite réticence en me disant je vais faire une belle histoire.
On est à l'entrée sud de Las Vegas, à la Little Church of the West. C'est la plus ancienne église qui célèbre les mariages dans la ville. Près de nous, il y a l'hôtel Mandalay Bay et surtout le panneau Welcome to Las Vegas. Cette église est installée sur un terrain qui fait un peu moins d'un demi-hectare. Il y a aussi un jardin couvert qui peut accueillir une centaine de personnes, une fontaine.
Daniel Valence, manager de la Little Church of the West.
Cette chapelle a été construite en 1942. La première célébration s'est déroulée début 1943. L'édifice faisait partie du Last Frontier Hotel, qui déclinait un décor de Far West à l'époque. Au début, la chapelle était intégrée à l'hôtel, mais bien vite des gens ont voulu s'y marier. Et cela a lancé la vogue des mariages dans la ville.
En 1992,
elle a été classée au patrimoine historique des États-Unis. Ces matériaux, du bois rouge de Californie, ce qui donne cette impression de chaleur à l'intérieur. Avant, il y avait des chandeliers avec des bougies, mais par sécurité, elles ont été remplacées par des ampoules. Mais tout le reste est d'origine. On est vraiment fiers de l'histoire de ce lieu, qui accueille environ 3000 unions par an. On aime que les couples sentent que c'est leur jour, que l'église leur appartient et qu'ils ne vont pas faire la queue devant l'entrée. Ici, on a des packages qui vont de 180 à 2500
euros.
La différence de prix tient compte de la durée de la cérémonie, du nombre de bouquets composés par notre fleuriste et de la quantité de photos prises ce jour-là.
The bigger the package, the longer the ceremony. Every wedding is, you know, legal around the world.
Chaque mariage est valable partout dans le monde. Un responsable de l'état civil doit signer les papiers nécessaires. C'est vraiment un business important. Environ 90 000 mariages sont célébrés chaque année dans la ville. Et les derniers plans du film Viva Las Vegas avec Elvis Presley qui épouse Anne-Margaret ont été tournés dans cette chapelle.
Obviously not the entire movie, but the closing scene.
On voit le couple sortir bras dessus bras dessous alors que résonne la cloche. C'est la même qu'on actionne à chaque cérémonie. C'est un lieu populaire pour tous les fans d'Elvis qui veulent marcher sur les traces du chanteur.
C'est un spectacle.
Une dernière chose à propos de la cloche. Elle est plus ancienne encore que l'église. Il y a une ville qui est à 30 km de Vegas qui s'appelle Saint-Thomas. Et cette cloche était à l'origine dans l'église de ce village. Quand le barrage Hoover a été construit en 1931, sur le fleuve Colorado, pour approvisionner en électricité Las Vegas, le village Saint-Thomas a été englouti par les eaux pour former le lac Mead. Avant de faire ça, quelqu'un a récupéré la cloche, l'a rapportée ici, je ne sais pas trop comment, et voilà donc l'histoire de cette cloche qui a plus de 100 ans.
L'historien Geoff Schumacher.
Les premières traces d'habitation à Las Vegas remontent au campement des Indiens Paiute qui étaient dans le coin il y a déjà plus de 100 ans. Le premier Européen qui a débarqué ici s'appelait Rafael Riviera. Il faisait partie d'un groupe d'explorateurs qui faisait du commerce dans la région. Ils étaient sur le chemin entre la ville de Santa Fe, dans l'état du Nouveau-Mexique, et le sud de la Californie. Las Vegas était à l'écart de la route habituelle depuis Santa Fe, et ça tombait bien, car Rafael Riviera cherchait à ouvrir de nouveaux itinéraires. On raconte qu'il arriva à Las Vegas, qu'il la baptisa ainsi en raison de ses prairies, en 1828 ou au début de l'année 1829. Ceux qui se sont installés durablement dans la ville, ce furent les Mormons. Ils venaient de mettre un pied dans l'état voisin de l'Utah en 1847, quand Brigham Young, leur leader à Salt Lake City, décida d'élargir leur colonie à l'ouest du pays. Il envoya donc des éclaireurs dans le coin de Las Vegas pour qu'ils y construisent un fort. Ils redoutaient les attaques des Indiens. Ils commencèrent à planter du blé, se mirent à creuser des mines dans les montagnes environnantes et essayèrent de se fixer ici. Mais comme ils faisaient du prosélytisme et qu'ils essayaient de convertir les Indiens, ces derniers ne furent pas très réceptifs. Il y eut de nombreux conflits. Bilan, les Mormons se retirèrent de Las Vegas.
Il n'y eut jamais, malgré de nombreuses recherches, beaucoup de mines d'or ou d'argent autour de Las Vegas.
Mais on en trouva,
pas très loin quand même. À partir de 1900, des gisements d'argent furent trouvés à Tonopah, environ 320 km au nord de Las Vegas.
Ça paraît être loin, mais pas selon les critères de circulation dans le Nevada. Un an plus tard, en 1901, un gisement d'or, cette fois, fut mis à jour à moins de 50 km de Tonopah à Goldfield. En 1907, rebelote, cette fois-ci dans la ville de Rhyolite, à proximité, dans le Beaufort District. Tout d'un coup, il y eut un afflux de travailleurs qui se ruèrent sur ces trois villes. Ce dont ils avaient besoin, c'est d'un accès au marché, mais aussi des matériaux pour construire des villes en dur. Las Vegas devint une ville étape pour tous ces mineurs qui voulaient vendre leur or en Californie ou ailleurs. On comptait 30 habitants dans la ville en 1900. Et le temps que le train arrive à Vegas, il y eut 1000, puis 2000, 3000 personnes de plus. La ville continua à croître et à se développer autour de sa gare. C'était devenu une ville bruyante, embouteillée, sale et poussiéreuse avec ses hôtels, ses bordels. On y trouvait tout ce qui correspondait aux attentes de ceux qui venaient de passer un mois dans le désert et qui voulaient prendre un peu de bon temps. Donc, Las Vegas, depuis le début, s'est offerte comme la ville du péché.
Ils veulent que j'aille à Las Vegas tout de suite. Prendre contact avec ce photographe portugais nommé Lacerda. Lui me donnera tous les détails.
Un film dont vous êtes le héros, c'est ça?
Qu'est-ce t'en dis?
Étant ton avocat, je te conseille de louer une voiture rapide, une décapotable. Il va te falloir de la cocaïne, un magnétophone pour passer notre musique, des chemises tropicales.
Eh ben, pourquoi pas? Enfin, si cette histoire vaut le coup. Ça vaut le coup, non? C'est le rêve américain en action.
Le documentariste Florent Tillon.
C'est évidemment ça que propose la ville, quoi, c'est de se plonger dans une, dans un dehors. Quoi. Et alors que, évidemment, c'est une arnaque, parce qu'il n'y a pas plus... plus conditionné comme récit que cette ville-là. C'est que quand on y vient, on y vient pour faire exactement à la ligne près ce qu'il y a écrit dans le scénario.
Las Vegas, Nevada. The entertainment and fun capital of the world. Where the clock never stops and the doors never close.
L'objectif, c'est de vous faire croire. Enfin, c'est pas de vous faire croire parce que finalement c'est possible. Enfin, vous voyez, j'y crois. En fin de compte, c'est tout est possible. En fin de compte, c'est-à-dire... Vous arrivez là-bas, ils veulent vous mettre dans cette ambiance où vous dites il n'y a plus de temps, il n'y a plus de... Vous pouvez manger à n'importe quelle heure, boire à n'importe quelle heure, vous pouvez tout faire quasiment à n'importe quelle heure. Il y a... Si vous êtes en intérieur, il n'y a pas de nuit, pas de jour. Il y a des endroits où vous ne vous rendez même plus compte s'il fait jour ou nuit en fait. À Vegas, ils ont des idées, on se demande comment ils les sortent. C'est irréel, c'est l'Euro Disney du jeu. C'est peut-être un mauvais parallèle de faire ça, mais on ne peut pas s'ennuyer, c'est impossible. Même si on n'aime pas le jeu.
On m'a donné à diriger un des plus grands casinos de Las Vegas, le Delgers.
Regarde-moi ça, ça pue le fric à plein nez.
Avant 1931, date à laquelle le jeu fut légalisé pour de bon, le Nevada fit plusieurs pas en avant et en arrière à propos de cette question. Techniquement, il fut interdit entre 1910 et 1931, mais en réalité, on jouait dans toute la ville de manière illégale. Ça se passait dans les salles cachées en fond de cour et pas au vu de tout le monde. Et quand enfin la légalisation arriva donc en 1931, le Nevada se lança à corps perdu dans ce qui devint bientôt une nouvelle industrie. Las Vegas vit grandir sa population à nouveau quand on commença la construction du barrage Hoover, à la même date, en 1931. Le gouvernement fédéral ne voulait pas que ses travailleurs habitent à Vegas. C'était une ville où ils risquaient de boire jusqu'à l'ivresse, où ils allaient se comporter de manière licencieuse. Dans l'esprit des administrateurs fédéraux, ils souhaitaient bâtir une cité toute proprette où on vivrait dans un cadre idéal. Ainsi naquit la Boulder City, toute proche des chantiers du barrage. Ce fut une ville sous contrôle fédéral pendant des années. Le jeu y était interdit, l'alcool en vente libre prohibé, pas de bar, extinction des feux tous les soirs à 21h, d'un ennui mortel, avec rien qui dépasse.
Oh mon Dieu, ça
serait
Vegas, et vu que c'est déjà un peu une fiction très puissante, omniprésente, C'est difficile en tant que cinéaste de trouver sa place en fait, face à ce film déjà énorme en face de nous. Et si on prend les exemples dans l'histoire du cinéma, des films un peu connus, les plus célèbres sur Vegas, que ce soit Las Vegas Parano ou Showgirls de Verhoeven, je trouve que les deux sont un peu un échec, dans le sens où représenter l'horreur, le désastre de Las Vegas, c'est très difficile parce que c'est déjà comme ça qu'elle se montre en fait. C'est déjà comme ça qu'elle se définit. La ville du péché, la ville de l'apocalypse en fait, c'est aussi à travers mon film, fondé par des mormons qui sont millénaristes et qui croient à la fin du monde, basé sur la destruction des ressources pour une espèce de surconsommation, en plein désert où l'eau s'épuise, où il neige plus, etc. etc. Tout ça pour une espèce d'existence décadente. Et du coup, ouais, elle bat tous les records.
Les travailleurs du barrage qui se tuent à la tâche 6 jours sur 7, de 10h à 14h par jour, sous un soleil accablant et au péril de leur vie, quand ils voulaient se la couler douce, ils ne pouvaient pas le faire à Boulder City. Ils prenaient donc la route de Vegas pour prendre du bon temps. Et la ville était ravie, bien sûr, de les accueillir. Donc, vous ajoutez aux ouvriers du barrage les touristes attirés par le jeu, et vous avez Las Vegas qui devint en un clin d'œil une ville incontournable pour tous ceux qui voulaient tourner le dos à la normalité de leur vie et lâcher la bride.
L'architecte Valérie Didelon.
Le lien est très très fort entre Los Angeles et Las Vegas, hein, c'est un lien historique et économique. Las Vegas n'existe que parce qu'on y extrait au début du magnésium pour l'industrie aéronautique et qu'il y a l'électricité du Hoover Dam à côté. Et donc Las Vegas, c'est un endroit qui fournit à Los Angeles tout un tas de biens de consommation. Et à l'inverse, comme on a interdit les jeux d'argent en 38 à Los Angeles, que c'est pas facile de divorcer en Californie, on va faire à Las Vegas tout ce qu'on peut pas faire en Californie. Donc il y a toute la réponse juridique qui est importante dans l'affaire de Las Vegas. Hein. C'est là où on se marie facilement, mais où on divorce facilement. C'est là où on fait en gros tout ce qui est interdit ailleurs, ce qui est interdit en Californie. Donc c'est symbiotique, la relation entre les deux villes.
Allô ?
Tracy, c'est Phil.
Phil, où vous êtes tous passés ?
À l'enterrement de vie de garçon toute la nuit, ça a un peu dérapé et on a perdu Doug.
Quoi ? On va se marier dans moins de 5 heures ?
Hey, je crois que c'est râpé.
Entre la légalisation du jeu en 1931 et 1940, la plupart des casinos furent construits dans ce qui est aujourd'hui le downtown de Las Vegas sur Main Street et Fremont Street. Une partie minuscule de la ville actuelle. En 1941, un établissement ouvrit sur ce qu'on appelait alors l'autoroute de Los Angeles, la US 91. Son nom, El Rancho Vegas. Ce fut donc le premier hôtel casino à s'installer sur le strip. Ensuite, vint le New Frontier en 1942 et le Flamingo. L'ouverture de ce palace en 1946 est très importante. Même s'il y avait d'autres hôtels sur le strip, ils avaient gardé un air vieillot, un style du Far West, avec de la poussière sur le sol et ses clients en bottes de cow-boy. Avec le Flamingo, la clientèle visée, c'était l'Europe. Et on se serait cru à Monte Carlo. Les gens devaient s'habiller en tenue de soirée pour dîner, pour assister à des spectacles. Et l'endroit était très élégant. Bugsy Siegel, le gangster qui fit construire le Flamingo, avait compris que pour attirer des gens fortunés, venus du sud de la Californie, il avait intérêt à leur proposer un endroit de ce calibre.
We're on the famous strip, where every ritzy casino has its swimming pools and palm tree gardens, and the summer heat is delightfully tempered by the dry desert air and enlivened with all that's comely.
C'est une ville qui va essayer d'attraper ce qu'il y a de pire en nous, en fait. Et quand j'ai traversé le strip, moi j'y suis allé trois fois. La première fois, c'était juste une impression, effectivement, de surpuissance quand même.
You can't get more sumptuous than this. You get free food often enough, inexpensive rooms and top entertainment at all the casinos.
Moi-même, j'ai été un peu victime de ça. Et alors, j'ai tenu à l'écart dans Las Vegas Meditation, le film, j'ai tenu à l'écart le plus possible le spectacle des casinos, le spectacle des machins, même s'il y en a quand même un petit peu, en essayant d'aller plutôt vers l'existentiel, voilà, d'un personnage qui fait sa crise de la quarantaine, qui essaie de survivre en faisant un groupe de doom metal apocalyptique, en jouant dans les petits snacks. Et c'est peut-être ça. Par exemple, Leaving Las Vegas, ce film avec Nicolas Cage, sans doute le meilleur film sur Las Vegas, d'après moi, parce que justement, il prend le parti de suivre le désastre existentiel singularisé d'un individu. Et il va mourir là-bas en buvant, en allant à fond dans la décadence, et on suit vraiment ce type-là. Nicolas Cage, dans ce rôle-là, est très bon. Cette énergie, ces architectures extraordinaires, notamment celle du César Palace, hein, qui est donc sur l'architecture impérialiste et tout ça, qui est plus grosse que nous. On est engouffré là-dedans comme. Et je me souviens, notamment, on avait essayé un All You Can Eat au Luxor. Première fois que je peux manger dans un All You Can Eat, le principe c'est qu'on peut manger tout ce qu'on veut. Tandis que la serveuse nous servait en disant oh, c'est une vie incroyable, elle double de volume tous les 10 ans. Oui, bah, c'est les voix de la fiction. Il y a l'image et le son, comme dans un film.
The Nevada Desert in America is the scene of the latest atomic test. International observers come by invitation to join scientists, military and civil defense authorities making a study of the test.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il y eut l'installation d'une base de l'aviation américaine à proximité de la ville. Conséquence, un nouvel afflux de milliers de nouveaux habitants. Même chose en 1950, quand démarrèrent les tests atmosphériques de l'arme nucléaire sur une installation située à moins de 100 km de Las Vegas. Des ingénieurs, des scientifiques, des ouvriers, une grande variété de personnel arrivèrent sur place pour construire le site et ensuite mener à bien les tests. C'est la première fois que Las Vegas offrait des emplois avec un aussi grand niveau de qualification.
Michael Hall, directeur du National Atomic Testing Museum.
À partir de 1951 et jusqu'en 1992, il y eut plus de 200 tests nucléaires et les habitants ici pouvaient apercevoir les explosions. Et dans Downtown, sur Fremont Street, il y avait même un bar qui proposait à ses clients de regarder le spectacle depuis le toit. Parfois, même les horaires des tests étaient annoncés à l'avance. Et en fonction des conditions climatiques, on apercevait le champignon nucléaire en train de monter dans le ciel, ce qui est une grande nouveauté à l'époque. Ces tests trouvèrent rapidement leur place dans la pop culture américaine. À Las Vegas, on a même procédé à l'élection de Miss Bombe Atomique. Ça a démarré en 1953. C'était une sorte de concours de beauté sur le thème du nucléaire. Ces tests ont donné lieu aussi à des bandes dessinées. En fait, ce phénomène culturel a commencé dès les années 30 avec des illustrations sur le dos des boîtes de céréales, puis dans des livres de science-fiction.
Aujourd'hui, on dirait, mais vous êtes dingue ou quoi? Vous allez être exposé à des radiations et développer un cancer. Mais à l'époque, on ne connaissait pas bien les risques. Et c'est vrai que Las Vegas a célébré ses tests de différentes façons. Des coupes de cheveux atomiques et même un atomic bar qui existe encore aujourd'hui, avec des cocktails atomiques.
Vous mélangez une once et demie de vodka avec autant de brandy, de champagne et une cuillère à café de sherry.
Las Vegas, à l'époque, avait cette intelligence de transformer n'importe quel événement en publicité. Par exemple, en 1956, quand Elvis Presley a posé le pied à Las Vegas, on a parlé de lui comme le chanteur au pouvoir atomique.
L'écrivain Denis Soula.
La première fois qu'Elvis vient à Las Vegas, c'est en fait sur le chemin du retour de Hollywood. Il est parti avec le colonel Parker et les gars, ses potes, pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Ils s'arrêtent à Las Vegas pour chanter, hein, quand même. Il est encore avec Scotty Moore et avec toute la bande de Memphis. Et alors c'est peut-être à Las Vegas qu'il essuie son premier bide. C'est-à-dire que jusque-là, entre 54 et 56, c'est un succès incroyable, c'est des foules déchaînées, c'est... bon. Et à Las Vegas, pour la première fois, il joue devant un public qui est assis. Et devant un public qui est adulte. Et du coup, qui répond pas trop. À tel point que Scotty Moore, son guitariste, dit « C'était la première fois de la tournée depuis 2 ans qu'on s'entendait jouer et qu'on entendait nos fausses notes. » Mais Elvis aime la ville parce que... c'est pas qu'il joue, il joue pas. Donc il dit même que jusqu'à la fin de sa vie, personne ne se souvient de l'avoir vu mettre une pièce dans une machine à sous. Mais en revanche, ce qu'il aime à Vegas, c'est que c'est une ville qui dort jamais. Et lui, qui est un hyperactif, ça lui va très très bien.
Il doit y avoir des... J'ai pas vu l'envers du décor. Il doit y avoir un envers du décor. Il doit y avoir des zones de Vegas peut-être où vous avez des gens qui ont moins d'argent ou les personnes qui travaillent peut-être tout simplement. Il doit y avoir des gens exploités. Bah, nous, on venait, on était touristes, hein, on n'a pas assisté à ça. Leur objectif, à mon avis, c'est de vous le cacher, de surcroît, je pense aussi. C'est que vous ne voyez pas les ficelles qui construisent cette histoire, ouais, ce décor. Ouais.
Le documentariste Stan Armstrong.
Je suis à Vegas depuis la moitié des années 50. Je suis arrivé de San Francisco en 1955. J'avais 2 ans. Mes parents sont originaires de la Louisiane. Dans mon enfance, j'ai vécu dans une ville régie par la ségrégation. Mes parents travaillaient sur le strip, mais devaient rentrer après leur travail dans la partie de la ville réservée aux Noirs, qui se trouve encore aujourd'hui à l'ouest de la ville. Dans ce quartier, ils se sentaient en sécurité, car ils vivaient au milieu d'autres Noirs venus comme eux du sud profond des États-Unis. Il faut se rappeler le contexte de l'époque. En 1955, commença la lutte en faveur des droits civiques, avec des personnalités comme Rosa Parks, Emmett Till et Martin Luther King. Ça bougeait partout dans le pays. C'était une époque formidable, pleine de changements. A 2, a 3, a 4, a
4 o'clock, a rock. You gotta sing rock or else you go in hot. Las Vegas was a place where
c'est vrai que Las Vegas accueillait à l'époque beaucoup de chanteurs et de chanteuses noires. C'est bien simple. Toutes les têtes d'affiche des années 40, 50 et 60 sont passées ici. Sammy Davis Jr., Nat King Cole, Lena Horne. Mais... malheureusement, et c'est assez fâcheux d'en reparler aujourd'hui. Mais oui, Las Vegas vivait sous le régime de la ségrégation. Les chanteurs noirs ne pouvaient donc pas prendre une chambre dans l'hôtel où ils se produisaient. Il y avait des clubs installés dans le secteur ouest de la ville, et ils y faisaient des shows supplémentaires, cette fois-ci devant un public noir. Il y eut aussi des artistes blancs qui se moquaient de tout ça, des gens comme Frank Sinatra qui sont venus se joindre à eux.
Ce monde de fêtards baptisé le Rat Pack, avec donc Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop et Peter Lawford. Ils prenaient vraiment du plaisir à chanter de ce côté-ci de la ville. C'est vrai que Sammy voulait s'éclater après un concert, mais pour lui, le strip, c'était interdit. Et Frank leur a dit un truc comme « Baby, si on ne peut pas prendre son pied ici, allons du côté ouest. » On a gardé les photos de toute cette bande qui est en train de faire la tournée des Grands Ducs comme chez Mom's Kitchen, où ils pouvaient déguster de la bonne cuisine du sud des États-Unis. Sammy leur faisait découvrir les plats typiques comme le chou cavalier, le pain au maïs ou d'autres plats qu'on mangeait dans cette partie de la ville. Vu le contexte d'émancipation des Noirs dont j'ai parlé, la création de l'hôtel Le Moulin Rouge n'est pas étonnante. Elle s'est inscrite dans ce mouvement de l'histoire. Des propriétaires mus par un idéal de valeur ont donc ouvert cet établissement pour blancs et noirs. Et là, Beaucoup de gens ont ressenti que c'était une très bonne idée. Mais c'était peut-être aussi une idée un peu trop précoce, car la loi qui interdisait les relations sexuelles entre blancs et noirs sévissait toujours dans l'État. Elle a été abolie en 1959. Moralité, ce nouveau casino ne respectait pas les lois du coin. En résumé, les gens adoraient l'idée du Moulin Rouge. Ce fut un lieu incroyable, mais il ne resta ouvert que 6 mois. Le Moulin Rouge avait pourtant réussi à monter 3 shows quotidiens, avec notamment une revue d'inspiration parisienne, avec des danseuses noires qui rappelaient ce que faisait Josephine Baker, et même du French Cancan. Donc, le public affluait de partout. Dans le monde entier, il se passait de grands bouleversements. Et donc, le Moulin Rouge s'est inscrit dans ce mouvement des droits civiques né en 1955. 5 ans après l'ouverture éclair et la fermeture de l'établissement, les Noirs étaient autorisés sur le strip.
Lights! Lights!
How to come off?
Like a charm.
Same here, fantastic.
Après Frank Sinatra, le chanteur, Frank Sinatra, l'acteur, dans Ocean Eleven, première version, en 1960.
Well, I married you once and it didn't work out too well, so what's wrong with a little hey hey?
Get out of here.
Hey, give me a little kiss.
Sound idea, it's constructive.
You wait right there and I'll be there in a minute.
I'll wait for you.
Valérie Didelon.
La figure centrale, c'est Sinatra. Hein. Sinatra et ses rapports un peu ambigus avec la mafia. Et puis, alors ce qui est très intéressant, c'est que dans un deuxième temps, à partir du milieu des années 60, Las Vegas devient un lieu de tournage pour Hollywood. Hein. Donc, il y a un film que j'aime beaucoup qui est Viva Las Vegas avec Elvis Presley, hein, avec un générique qui est absolument extraordinaire où de nuit on voit le strip, les néons, etc. The Diamonds Are Forever, hein, un James Bond mythique, etc. Donc la ville va de même, elle va devenir un plateau de tournage en fait, et donc c'est très pratique parce qu'on peut aller tourner un film et en même temps passer son week-end sur place.
Elvis revient à Las Vegas au printemps-été 1962 pour tourner Viva Las Vegas. C'est un film de George Sidney qui est c'est un bon film d'Elvis dans la filmographie pour plusieurs raisons. D'abord George Sidney parce que c'est un vétéran de Hollywood qui a tourné Les Quatre Mousquetaires, Scaramouche avec Stewart Granger et qui a fait des films avec Gene Kelly. Et d'abord, il connaît très bien son métier. Et ensuite, il adore la musique et les comédies musicales. Il a fait Lifeboat, notamment. Et la deuxième chose, c'est la rencontre avec Anne-Margaret. Et là, c'est la comédienne qui est face à Elvis, qui est d'abord, d'habitude, ce sont des faire-valoir, à part quand il est face à Natalie Wood. Mais là, Anne-Margaret, il y a un de ces gars qui lui dit, en fait, c'est ton alter ego, c'est Another You. Un autre toi. Et c'est vrai que ça, ils se plaisent. Elle est presque virile en fait. Et en même temps, terriblement féminine, c'est une rousse pétulante. Et donc avec Anne-Margaret, c'est très très chaud, alors que Elvis est censé se marier quand même avec Priscilla.
Allô, allô.
Grande nouvelle, je me marie. Ah.
Dis-lui qu'il commet une erreur monumentale.
Bienvenue à Las Vegas. Je veux que vous y alliez tous à donf.
Vous avez de la drogue?
Des bêta-bloquants, ça vous dit?
On va s'éclater comme en 59.
Ça va être un week-end de folie.
La journaliste d'investigation Sally Denton.
J'ai grandi dans cette ville et j'appartiens à une famille investie dans la politique. Il a toujours été très clair pour moi que Las Vegas avait un rôle plus important dans le pays que ce qu'on en disait à l'étranger. Le premier titre auquel j'avais pensé pour mon livre, c'était « La capitale dans l'ombre ». Mon co-auteur, Roger Morris, avait siégé au Conseil de sécurité intérieure sous Nixon. Il avait donc une vue d'ensemble sur les connexions nationales et internationales dans la politique. Dans mon enfance, dans les années 60, j'ai toujours vu des gens importants débarquer à Las Vegas. Je me suis toujours dit qu'il s'est passé des choses sérieuses. Derrière la façade du brillant et du clinquant, derrière ce que j'appellerais le village Potemkin de Las Vegas, il y avait un autre monde impénétrable, secret et dangereux, où se tramaient des choses importantes. Dans le monde de cette époque, Vegas, c'était l'endroit où était blanchi l'argent sale. Où arrivait de l'argent d'un endroit pour repartir ailleurs, de l'argent que le gouvernement américain destinait à tel ou tel pays, mais qui n'aurait pas été approuvé par le Congrès. C'était donc le lieu où se jouait une politique étrangère de l'ombre. Et ça m'a toujours frappé. C'est d'ailleurs le mafieux Jim Hoffa qui a dit que c'était le lieu de rencontre entre les gens de la haute et ceux de la pègre. Je suis partie enquêter dans le Kentucky, dans l'État du Nouveau-Mexique, et j'ai beaucoup écrit sur la corruption dans d'autres États. Eh bien ici, au Nevada et à Las Vegas, la réalité de cette corruption n'était pas plus importante, c'est juste que cela se faisait au grand jour. Et il n'y avait plus grand-chose à cacher dans cet état depuis que le jeu avait été légalisé. Ensuite, la question s'était posée en 1931, est-ce que n'importe qui peut venir ici et diriger un casino ? S'en suivit un pas de deux délicat entre ceux qui fixaient les règles et ceux qui les contournaient dans le seul état des États-Unis à avoir autorisé le jeu. Donc, les gars de la justice se disaient, bon, il y a une bande de criminels qui va débarquer pour prendre la tête des casinos, car ils ont les compétences pour gérer ce genre de maison. Ils n'ont fait que ça depuis leur début. Alors on fait quoi ? Ils ont retourné l'idée dans tous les sens, jusqu'à ce qu'ils décident d'en blacklister certains.
Je pense que beaucoup d'habitants de Las Vegas sont convaincus d'avoir vu ou entendu parler de choses très mystérieuses.
Moi, je sais qui a tué Bugsy Siegel.
La directrice de casting, Marie Lear.
J'ai parlé à un mafieux originaire de Détroit et aujourd'hui âgé de 92 ans. Et je peux vous dire que la pègre de Détroit était à Vegas avant celle de Chicago. La femme de ce mafieux était dans la maison où le meurtre a eu lieu. Vous savez ce qu'on appelle dans le milieu une mule ? Connaissez-vous l'âge de la plus jeune mule qui ait transporté de l'argent à Las Vegas ? 5 ans. Son père a lancé un des casinos les plus importants de la ville. À chaque fois qu'il allait chercher des liasses de billets à Miami, on le fouillait à l'aéroport et on trouvait l'argent. Un jour, il a demandé à sa fille de 5 ans si elle voulait venir avec lui à Miami avec son sac d'école aux couleurs voyantes sur le dos. Cette petite fille m'a raconté, « Marily, on m'a promis $100 si je ne me plaignais pas du poids de mon sac. » Elle avait alors des millions accrochés à ses épaules.
Quand j'étais petit, on avait l'habitude d'aller au casino. Mes grands-parents jouaient aux machines à sous, ma mère m'y emmenait pour retrouver mon père, qui se joignait à nous quand il était libre.
L'historien Michael Green.
Le propriétaire me faisait sauter sur ses genoux, puis nous invitait à dîner, au 99 cents. Bon, il se trouve que c'était un mafieux de Chicago. Ah oui, ce gars-là jouait avec moi. Ça, c'était plus excitant que le fait qu'il soit le gérant de cet établissement dans le nord de la ville et qu'il se débrouille bien. Je pense que beaucoup d'habitants de Las Vegas ont vécu ce genre d'histoire inhabituelle. Je ne pense pas que les gens débarquaient à l'époque à Los Angeles en se disant « c'est ça l'Amérique ?» Mais ils posaient la question « c'est ça l'Amérique ?» en arrivant à Las Vegas. Et bien sûr, si on était en période d'élection, la réponse dépendait du candidat qui était en tête dans les sondages. Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack.
Jack is on the right track. Pour les frères Kennedy, Bobby et Jack,
Sally, Denton.
C'est sûr que Las Vegas, c'était un endroit où ils venaient chercher de l'argent pour leur campagne électorale. Tout ça orchestré en sous-main par leur père. Ils ne faisaient sans doute pas la même chose à Chicago ou en Virginie. Mais en tout cas, c'est ici qu'ils venaient collecter des fonds. Mais c'est sûr que de telles sommes circulant dans une ville sans aucun contrôle ont attiré la mafia, les barons de la drogue. Je pense aussi que Las Vegas a servi de base arrière pour des opérations menées sous le manteau par la CIA, des opérations qui avaient besoin de financement clandestin. Et Vegas a toujours réussi à faire la banque pour toutes ces grosses coupures, jamais déclarées, jamais détectées.
D'après mes recherches, la mafia n'opère plus dans les casinos aujourd'hui. Il existe peut-être des liens qu'elle noue avec l'industrie du jeu, mais elle ne possède plus d'hôtels. Elle n'en gère plus. Bien sûr, on trouve le crime organisé ici comme ailleurs, mais là où on va le trouver à coup sûr, c'est dans les clubs de striptease, où circule encore de l'argent liquide. Les casinos ont tourné le dos aux espèces sonnantes et trébuchantes, alors que c'est ça que cherche la mafia. Les cartes de crédit, c'est bien beau, mais des valises pleines de billets, c'est bien mieux. Et puis aussi, il y a eu des efforts conjoints pour se débarrasser du milieu. Des efforts menés à la fin des années 70, début des années 80, par le gouvernement fédéral, par l'État du Nevada, les médias. Et en même temps est arrivée aux affaires une génération de malfrats qui était moins affûtée que celle d'avant. Si vous regardez la série des films Le Parrain, Don Vito Corleone est beaucoup plus tranchant que son fils Michael. Le fils ne peut pas rivaliser avec le père. C'est ce qui s'est passé ici.
Ce qu'il faut arriver à réimaginer, c'est comment est la ville en 1967. Il y a 270 000 habitants. C'est une petite ville dans le désert, elle est beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. En fait, le strip, il n'y a pas grand-chose sur le strip. Il y a quelques casinos, il y a quelques snacks, etc. On voit la lueur de la ville de très très loin. Et du coup, toutes ces enseignes, elles se détachent vraiment sur le noir de la nuit. Tom Wolfe, lui, quand il décrit la descente du strip en voiture, il compare ça avec prendre de l'acide, en fait. Il dit c'est une augmentation de la conscience. Tout d'un coup, on voit des formes lumineuses sur un fond noir, etc. Et ça, c'est très, très lié au fait que la ville n'est pas grande comme aujourd'hui. Il n'y a pas de la lumière partout. Hein. Donc, c'est très particulier au fait que c'est le début du développement du strip. Donc il y a des enseignes comme l'enseigne du Aladdin qui fait 15 étages de haut avec je ne sais plus combien de centaines de milliers d'ampoules. Et à l'époque, personne n'a jamais vu ça ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'on voit à Las Vegas, on le voit partout dans toutes les autres villes du monde. Or, à l'époque, c'est absolument inédit comme phénomène. Should I be on the microphone here? Yeah. Oh, good.
Denis Soula.
Dans la foulée du NBC Show qui est diffusé fin 1968, Elvis donc fait son retour à la scène et évidemment c'est à Las Vegas parce que le colonel Parker décroche un formidable contrat avec un mania de l'immobilier qui s'appelle Kirk Orion, qui inaugure un nouvel immeuble et donc casino, l'International. Donc c'est là où Elvis va se produire. Et comme d'habitude, dans la carrière d'Elvis, quand on lui propose quelque chose d'excitant, il s'excite, il se réveille, il lève une paupière et quand il bouge, ça fait mal. Et la première année, pour le premier show, il y a le monde entier qui est là, il y a Cary Grant qui est là, il y a Fats Domino, qui est une des idoles d'Elvis, qui est là, avec qui il se fera prendre en photo, et il casse la baraque. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une génération qui ne l'a jamais vu. En fait, les gens qui l'ont vu avant 69, ils sont très rares. C'est les gens qui l'ont vu dans le sud des États-Unis, il a fait quelques dates ailleurs, mais en fait, il est très vite parti au service militaire, il a très vite arrêté de jouer. Donc, les gens qui voient ça en disant, ouais, en fait, tout le monde est stupéfait, quoi. Stupéfait de la sauvagerie, de l'attitude agressive, de la manière dont il est. C'est son charisme, en fait, qui interpelle tout le monde, les musiciens et les gens même qui sont. Ouais, bon, Elvis, enfin, qui n'ont toujours pas reconnu. Les gens sont stupéfaits de sa vigueur et de son magnétisme.
Denis Soula, aujourd'hui, Céline Dion a signé un contrat sur plusieurs années avec le César Palace, où elle se produit 4 ou 5 nuits par semaine. Avant elle, Elvis Presley donc est passé de nombreuses années à Las Vegas. Sur l'ensemble de ses 1156 concerts, combien est-ce qu'il a donné de concerts à Las Vegas.
525 concerts.
Ils ont de l'argent, ils n'ont plus le pouvoir. Ils ont réussi à motiver Céline Dion pendant combien d'années en la payant Alors c'est pas forcément une référence, mais c'est quand même, c'est, enfin pour certains c'en est une, pour d'autres moins. Mais c'est quand même, Céline Dion, c'est quand même quelqu'un qu'on paye pas 2 euros, quoi, je veux dire. Et pour qu'elle fasse un spectacle constant pendant des années, c'est, même si c'est la passion, il y a aussi quelque part derrière le nerf de la guerre, toujours à Vegas, l'argent.
Américain qui allait au César's Palace, il réfléchissait pas à l'antiquité romaine. Il voyait là, il y avait Frank Sinatra et Barbara Streisand qui chantaient. Certes, il y avait des colonnes, mais il n'avait pas grand-chose à faire. C'est un peu comme les gens qui allaient dans les musées de cire voir des Vénus de Milo avec des bras. Hein. Ils n'étaient pas intéressés dans la vraie Vénus de Milo. Hein. C'est aussi c'est Umberto Eco qui raconte ça très bien dans La Guerre du Faux, qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le référent n'est pas important. C'est ça le simulacre, hein. C'est que c'est la chose elle-même qui est intéressante. Donc je ne crois pas qu'il y avait cette idée de voyager à travers le monde. Alors, au contraire, on était vraiment là en Amérique. Take this one and stick it up your sister's ass.
Mon père travaillait au casino Le Stardust.
Michael Green.
Pour ceux qui ont vu le film Casino, eh bien, c'est l'histoire du Stardust. Robert De Niro joue le rôle du directeur. Celui-là même qui, dans la réalité, a viré mon père. Et au fait, pour la nuit où la voiture du directeur du casino est partie en fumée, mon père a un alibi, au cas où quelqu'un le suspecterait. Mais je me rappelle d'une fois où mon père était sur place et que ma mère est passée le chercher avec moi. Ce soir-là, il y avait la revue du Lido qui venait de Paris. Il y avait aussi des animaux. Ma mère m'a aidé pour que je les regarde de plus près au-dessus d'un mur. J'ai vu passer les girafes, et quand ça a été le tour des chameaux, je me suis fait cracher dessus par l'un d'entre eux. Alors, ok, ça peut arriver quand on va au zoo. Mais là, dans un casino, c'est un peu différent. Et je me rappelle aussi d'une réunion au lycée où on a vu arriver l'acteur Tony Orlando, qui se produisait dans un show sur le strip. Il était là, en chair et en os à la réunion. Mes parents ont fait leur scolarité à Los Angeles. Ils n'ont jamais vu des stars d'Hollywood dans leur école. Mais ici, c'est comme ça que ça se passait.
Marie Lilly.
Moi, j'ai vraiment aimé le Las Vegas du temps de la mafia. Quand ces gros bras étaient en ville, on n'avait pas de problème. Pas de gangs de rue, rien. Ils s'occupaient de tout. Et moi, ça, j'ai beaucoup apprécié pendant une période de presque 30 ans, entre 1950 et la fin des années 70. Oh, moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui appartenaient au milieu. Et surtout parce que c'est moi qui me suis chargée du casting sur le film Casino en 1995. J'ai fait beaucoup de recherches car Martin Scorsese aime ce qui est authentique dans ses films. C'était intéressant de voir attabler ensemble des anciens agents du FBI au coude à coude avec des malfrats en train de discuter comme de vieux copains alors qu'avant ils étaient des ennemis mortels. Vous savez la scène dans le film où la voiture du directeur explose? Eh bien, j'ai trouvé pour Martin Scorsese le mécanicien qui était intervenu à l'époque des faits. Il a pu raconter au réalisateur où se trouvaient les débris, ici le capot, là la porte, une reconstitution authentique. Et ça, Scorsese appréciait. Sur le tournage, il avait besoin d'une fille qui puisse apprendre à Sharon Stone à voler des jetons, sans se faire prendre. J'ai passé un coup de fil au poste de police et ils m'ont dit « Écoutez, on en a deux sous les verrous en ce moment, dont une qui va rester ici pour un moment et une autre qu'on vient de remettre en liberté. Si vous voulez, je l'appelle et je vois si elle est disponible. » Elle a été d'accord, elle est venue me voir. Une fille d'1m80, une blonde superbe, des cheveux jusqu'aux fesses. Quand on est arrivé au Riviera, le casino où se passait le tournage, les hommes la dévoraient du regard. Elle leur a dit « Regardez-les en train de saliver ». Scorsese lui a fait « Ok, montrez-moi ce que vous savez faire. Elle lui a répondu, sur la table de jeu? Il a répondu, oui, sur la table de jeu. Sur le film, on utilisait des jetons qui avaient une vraie valeur. Et il y avait même un gars qui les surveillait. Il en était responsable. Eh bien, en quelques minutes, sur la table de jeu, des jetons avaient disparu. Il ne restait plus qu'une poignée. Alors le gars a dit, « Qui a pris mes jetons ?» Elle a répondu, « C'est ça que vous cherchez ?» Elle les avait sur elle. L'équipe technique, tout le monde l'entourait et elle avait quand même réussi à les subtiliser. Elle était incroyable. Et c'est donc elle qui a appris à Sharon Stone à faire ce tour de passe-passe. Autre anecdote, pendant le casting, même pour choisir un petit rôle avec une seule réplique, Robert De Niro s'asseyait à côté de Martin Scorsese et posait des questions. On a booké 8000 figurants pour ce long métrage qui a duré 8 mois. Même les scènes avec de la neige ont été tournées ici à Vegas. Ils ont apporté de la vraie neige avec leurs machines. Bref, on a été un peu occupés avec ce film.
Existe-t-il une industrie du cinéma à Las Vegas? Au niveau local, oui, certainement.
Le réalisateur David Schumacher.
Mes étudiants montent leur société de production et ils arrivent à en vivre. En ce qui concerne les films à gros budget qui viennent tourner à Las Vegas, il y en a beaucoup. En fait, ce n'est pas très cher de tourner ici. En plus, il y a un grand nombre d'équipes de techniciens sur place, sans parler des agences de casting. Moi, j'ai tourné deux longs-métrages ici. Et les acteurs, on les a trouvés à Los Angeles, mais surtout ici, dans la ville. Le premier film s'intitulait Thor à la station de bus. C'est une sorte d'allégorie où Thor, le dieu du tonnerre, débarque dans le Las Vegas d'aujourd'hui et il essaye de rentrer chez lui. Et sur son chemin, il rencontre beaucoup d'habitants, ce qui lui cause pas mal de problèmes. L'autre que j'ai réalisé, mais je ne peux pas vous montrer l'affiche, c'était Deux petits monstres. Las Vegas, c'est un bon endroit pour faire des films. Je viens de terminer la coproduction d'un long métrage pour la Chine avec des acteurs principaux chinois et des comédiens américains. Et il y a déjà 3 ou 4 autres films qui sont prévus. En fait, Las Vegas, les Chinois ne l'ont jamais vu sur grand écran.
À quoi sert Las Vegas aujourd'hui ?
Eh ben, elle sert à montrer ce qu'il ne faut pas faire, comme cas d'école, comme modèle à ne pas suivre. Malheureusement, c'est un peu le contraire qui se passe. Par exemple, si on prend toutes les villes comme Dubaï, Abu Dhabi, ou la capitale du Kazakhstan, ou la capitale de la Tchétchénie, qui a été reconstruite récemment sur ce modèle-là, quoi, c'est-à-dire la ville qui se construit sur des plans urbanistiques de puissants, hein, qui sont décidés en haut de la pyramide. Et qui construit une espèce d'architecture de fiction intégrale où le scénario est écrit à l'avance, à la ligne près, et où les citoyens doivent suivre le truc, sinon ils n'ont rien à faire là en fait. Et évidemment sur la surconsommation d'énergie, etc. Et donc ce modèle désastreux, au lieu d'être un repère, une boussole qui indique le sud, quoi, ouais, elle bat tous les records de désastre. Et en plus, elle se définit comme telle. Donc dans Las Vegas Parano, par exemple, quand ils vont au Circus, et qu'ils prennent le manège qui tourne en disant « Voyez comme c'est fou, c'est quand même l'Amérique délirante qui est en train de... » Mais sauf que c'est déjà ça, en fait. Si on y va sans être cinéaste, c'est déjà le spectacle qu'on a. Donc il y a une espèce de tautologie qui va pas bien avec le cinéma, puisque le cinéma, en tout cas la définition que moi j'aime et que la plupart des cinéphiles aiment, c'est que le cinéma, c'est filmer l'invisible.
C'est vrai que si vous venez tourner un documentaire à Las Vegas et que vous devez passer votre temps et dépenser votre argent pour filmer les incontournables de la ville, vous allez passer une journée à m'interviewer, une autre journée à filmer ici ou là. Bref, pour remédier à ça, le bureau du film du Nevada a préparé un bout à bout de Rush qui montre le moindre endroit de la ville. Vous pouvez l'acheter si vous êtes un réalisateur et vous obtenez une licence d'exploitation pour tous ces plans. C'est gratuit pour les étudiants en cinéma et ça coûtera trois fois rien aux autres. Et pour faire ça, bien sûr, ils ont recruté des cinéastes professionnels qui ont immortalisé des couchers de soleil, pris des hélicoptères. Bref, le bureau du film du Nevada a mis le paquet. Résultat, vous avez donc deux heures de tout ce qu'il y a à voir dans Las Vegas. Le bar à joueurs, des intérieurs, des extérieurs, des casinos où ils ont eu toutes les autorisations. Donc c'est... Oui, et vous n'avez le droit d'utiliser que ce que l'on vous donne. Mais c'est moins cher de se procurer ces images qu'un millier de personnes utilisent que de faire ça tout seul. Car en fin de compte, votre plan du Bellagio, ce sera le même que celui qui est dans les rushs.
Si l'on termine notre chronologie, les années 90 ont été une période incroyable dans Las Vegas.
Geoff Schumacher.
Ça construisait partout, du haut du strip jusqu'en bas, des deux côtés de la rue. On ne voyait que ça. Tout était toujours plus grand, plus spectaculaire. Des établissements comme le Hard Rock Hotel ont poussé à ce moment-là. Il existe toujours aujourd'hui, avec son ambiance rock'n'roll. Ce fut un grand succès. Puis est apparu Paris et sa réplique de l'Arc de Triomphe et une mini tour Eiffel. Tous les hôtels répondaient à une thématique différente. Le Venetian a été construit en référence à Venise. Le Bellagio avec ses références italiennes. Tout ce à quoi on pouvait penser s'est retrouvé sur le strip. Il y a bien sûr eu aussi New York, New York. Ce qui est intéressant, c'est que personne n'a construit un hôtel dont le thème soit Las Vegas. Bilan, la ville de Las Vegas a compté à ce moment-là 1 million d'habitants. Aujourd'hui, on dépasse les 2 millions. La croissance de cette ville n'a quasiment jamais ralenti.
Si vous avez une faiblesse, Las Vegas la trouvera, c'est ça. Si vous avez une critique, elle va la valoriser.
Est-ce que Vegas, c'est une visite ou c'est une expérience?
C'est une expérience, vraiment. C'est les deux. Mais j'y retournerai avec plus de temps. Et j'y retournerai parce que vraiment, on peut s'amuser à Vegas, hein, clairement. J'y retournerai. Bright lights, city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva
Las Vegas. Avec Daniel Valence, manager de la Little Church of the West, les historiens Geoff Schumacher et Michael Green, les réalisateurs Stan Armstrong et David Schumacher, le documentariste Florent Tillon, auteur du film Vegas Méditation, la directrice de casting Marie Lillier, la journaliste d'investigation Sally Denton, Denis Soula, écrivain spécialiste d'Elvis, auteur de La Dernière Balade aux éditions Autrement. Valérie Didelon, architecte, auteur de La Controverse Learning from Las Vegas aux éditions Mardaga. Et
j'y retournerai.
Et William Payen, président de la Ligue française de poker. Remerciements, Géraldine Charolais de l'Office du tourisme de Las Vegas. Texte dit par Mylène Bagram, Sophie Barjac, Nathalie Durong, Julie Navarre, Olivier Martineau, Jean-Michel Martial et Rafik Zénine. Ville Monde, coordination Catherine Libert, prise de son à Las Vegas, Benjamin Chauvin, prise de son studio Philippe Thibault et Alain Joubert, mixage Philippe Bredin, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomared.
Voyageant en Amérique, aucun rêve d'enracinement ne conteste la griserie heureuse de la voiture et du vent. nous traversons de nouveau Las Vegas. Comme ce voyage de Beauvoir dans l'Amérique au jour le jour, nous traversons de nouveau Las Vegas, nous aussi. Seconde escale, Ville-Monde, dimanche prochain, 22 mai à 15h. Et les voyages continuent aussi sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter toutes nos escales à travers le monde, en podcast, éternellement. Et dans quelques instants, sur France Culture, nous retrouvons les racines du ciel.